Les mystères du Palais Royal, quatrième partie. Chapitre 10. L'évasion. Une obscurité profonde régnait dans le cachot où la vieille femme et la jeune fille furent enfermées. Hébé, aussi tremblante que si on l'eût jetée dans la cage de quelque bête farouche, se réfugia dans l'un des angles et s'y blottit. Une heure se passa. On entendait d'autres bruits que ceux produits par les battements du cœur d'Hébé et par la respiration saccadée et en quelque sorte intermittente de la mère Moloch. Tout d'un coup, Hébé tressaillit. Une lueur pâle, mais dont l'éclat augmentait de seconde en seconde, venait de jaillir de l'angle opposé à celui dans lequel elle avait cherché un abri. Bientôt le cachot tout entier se trouva vivement éclairé. Hébé était muette de stupeur et d'épouvante. À quoi en effet attribuer ce qu'elle voyait, si ce n'est au magique pouvoir de la sorcière et à ses évocations infernales? Il eût été cependant possible d'expliquer autrement le phénomène apparent qui se manifestait. La mère Moloch venait tout simplement de communiquer à la mèche d'une très petite lampe de cuivre l'étincelle qu'elle avait fait jaillir de matières inconnues. Puis, cette lampe allumée, elle l'avait placée sur une pierre humide qui faisait saillie dans la muraille du cachot. La vieille femme regarda Hébé. Elle vit que la pâleur et le trouble empreints sur les traits de sa compagne exprimaient un profond effroi. Sans doute une sorte de pitié s'empara de son cœur, car elle dit « Est-ce que vous avez peur de moi, jeune fille ?»«
Oh oui !» balbutia Hébé. « Bien peur !»«
Et pourquoi ?»«
Je ne sais, mais ces femmes disaient tout à l'heure... »
Hébé s'interrompit. La mère Moloch acheva. « Ces femmes m'appelaient sorcière. Est-ce là ce qui vous effraie ?»«
Je l'avoue. »
« Eh bien, ne craignez plus.
Que je sois ou non sorcière, je ne veux vous faire aucun mal, et je puis vous faire peut-être beaucoup de bien. »
Hébé regarda la mère Moloch avec étonnement.
« Quel bien me feriez-vous » demanda-t-elle.
« Dans la position où je me trouve, je n'ai de secours à attendre ni à espérer de personne. »
« Qui sait ?»
Hébé ne répondit pas. La mère Moloch reprit. « Voulez-vous avoir confiance ?»«
En vous, madame ?»«
Oui, en moi. »«
Comment aurais-je confiance en une inconnue que je rencontre en un lieu comme celui-ci »«
Vous voulez dire en prison ?»«
Oui, »
répondit Hébé. « Mais n'y êtes-vous pas vous-même »«
C'est vrai. »«
Dans tous les cas, que risquez-vous »«
C'est encore vrai. »«
D'ailleurs, il m'est facile de vous prouver que j'ai des droits à votre confiance. »«
Et comment ? » ?»«
Donnez-moi votre main. »«
Qu'en voulez-vous faire ? » ?»«
Vous montrer, en vous parlant du passé, que ni le présent ni l'avenir n'ont de secret pour moi. » La jeune fille hésita. Cependant, après un instant de réflexion, elle tendit sa main. La vieille femme s'empara de cette main blanche et amaigrie. Elle en étudia longuement et minutieusement les lignes.
« Vous avez beaucoup souffert déjà, » dit-elle, « je le vois. »«
Oh, beaucoup !» murmura Hébé. « L'étoile sous laquelle vous êtes venu en ce monde est néfaste. Il y a eu du sang répandu à l'heure de votre naissance. » Hébé fit un geste d'effroi. « Ne le saviez-vous pas ?» demanda la vieille femme.
« Non. »«
Je vois dans votre vie beaucoup de sang versé. » La pâleur d'Hébé augmenta. La mère Moloch poursuivit. Dans les jours de votre enfance, vous avez été l'involontaire et innocente complice d'un meurtre. Évoquez vos plus lointains souvenirs. Est-ce vrai ?
C'est vrai,
balbutia Hébé. Depuis lors, par une nuit sinistre, votre main vient de répandre des flots de sang, mais c'était justice et non crime. Est-ce encore vrai ? Vous avez tué, et pourtant vous n'êtes pas coupable.
« Vous le voyez ?» s'écria Hébé.
« Cela est pour moi aussi lumineux que les rayons du soleil. »«
Mais alors je serai renvoyée absoute, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ?»«
Non. »«
Je serai condamnée ?»«
Vous l'êtes déjà. »«
Condamnée ?» répéta Hébé.
« Oui, condamnée à mourir. »«
Oh mon Dieu !»
Hébé se tordit les mains avec désespoir et éclata en sanglots convulsifs. Puis elle reprit.
« Mais alors je suis perdue ?»«
Non. »
« Et qui me sauvera ?»«
Moi. » Après ce que venait de lui dire la vieille femme, Hébé n'avait plus le droit de douter de la véracité de ses paroles. Elle se rassura donc un peu, mais elle n'en demeura pas moins absorbée dans la terreur que lui causaient les effrayantes paroles qu'elle venait d'entendre. La mère Moloch sembla comprendre et respecter le trouble de la jeune fille. « Dormez, » dit-elle seulement. « Dormez et tâchez de reprendre des forces, car bientôt vous en aurez besoin. » Puis elle éteignit la petite lampe, et pendant tout le reste de la nuit, l'obscurité et le silence régnèrent dans le cachot. Le lendemain, à l'heure accoutumée, la mère Moloch et Hébé furent conduites dans la salle commune. Comme la veille, l'une et l'autre se virent en butte aux railleries atroces et aux plaisanteries infâmes de leurs compagnes d'infortune. Seulement, quelques secondes avant le moment où les geôliers venaient reprendre les prisonnières pour les ramener dans leur cachot, la mère Moloch dit à Hébé « Tout à l'heure, quand vous m'entendrez prononcer ces mots, la nuit qui va commencer sera longue, appuyez votre mouchoir contre votre visage, et au risque de suffoquer, ne respirez pas.
« Pourquoi ? Vous le verrez.
Il ne s'agit point de commettre un crime, n'est-ce pas ?»«
Non.
Vous me le jurez ?»«
Je vous le jure.
Alors, je ferai ce que vous voulez. »«
Bien. »
Les geôliers entrèrent. Ils firent passer les prisonnières devant eux et se dirigèrent avec elles vers les cachots. La mère Moloch, arrivée à l'extrémité de la galerie souterraine et au moment où le geôlier introduisait la clé dans la serrure du cabanon, articula distinctement. La nuit qui va commencer sera longue. En même temps, elle approcha du visage du geôlier une petite boîte entr'ouverte, d'où s'échappait un parfum subtil. Hébé, qui tenait son mouchoir à la main, l'appuya fortement contre ses narines et contre sa bouche, et s'efforça de ne point respirer. Le geôlier poussa un profond soupir. Il étendit les bras, chancela comme un homme ivre, et tomba tout son long contre la muraille. La mère Moloch se pencha sur lui. Elle détacha le trousseau de clés qu'il portait à la ceinture. Puis, se relevant et saisissant Hébé par le poignet, elle lui dit très bas mais très vite « Venez, venez, suivez-moi » Hébé obéit machinalement. Au bout de quelques pas, la vieille femme ajouta « Vous pouvez maintenant ôter votre mouchoir et respirer. Il n'y a plus de danger. »«
Ah !» murmura Hébé aussitôt qu'elle eut repris haleine.
« Ah ! Vous m'avez trompé !»
« En quoi ?
Vous m'aviez juré qu'il n'y aurait pas de crime. »«
Eh bien, cet homme est mort. »«
Non pas. » Hébé se retourna et regarda le corps étendu sur le sol.
« Cependant, » commença-t-elle. La vieille femme l'interrompit en disant, « Il n'est pas mort, pas même malade. Il est étourdi, voilà tout. »«
Silence, et venez, venez vite. » Chapitre 11. La fuite. Ensemble, elles parcoururent des couloirs dans lesquels Hébé se serait perdu 100 fois, mais dont la vieille femme semblait connaître admirablement les détours. Évidemment, elle était une habituée de la prison. Hébé ne put s'empêcher d'en faire la remarque dans son fort intérieur. Durant ce trajet, elles ne rencontrèrent personne. Elles arrivèrent ainsi en face d'une petite porte doublée de fer, comme toutes celles de ce triste séjour. La mère Moloch essaya plusieurs des clés du trousseau. Enfin, elle rencontra la bonne. La porte s'ouvrit. L'air de la nuit, un air vif et pur, frappa Hébé au visage et lui produisit une sensation délicieuse.
« Sommes-nous libres ? » demanda-t-elle.
« Pas encore, » répondit la vieille femme, « mais bientôt. » L'endroit dans lequel elle se trouvait en ce moment était une petite cour entourée d'une muraille très élevée. Dans cette muraille se voyait une poterne dont on ne se servait presque jamais et qui donnait sur la rue. La mère Moloch trouva cette poterne. Il lui fut beaucoup plus difficile de l'ouvrir qu'elle ne le supposait peut-être. L'intérieur de la serrure était rouillé, la clé grinçait, mais sans faire jouer le pêne dans la gâche. Les quelques minutes qui s'écoulèrent en essais et en efforts infructueux furent horribles pour Hébé et lui semblèrent avoir la longueur d'un siècle. Elle se voyait de nouveau prisonnière, reconduite dans son cachot, et bientôt menée au supplice.
Ce qu'elle souffrit, nous ne saurions le dire. Enfin, un dernier effort, dont on n'aurait point cru capable les membres débiles de la vieille femme, triompha des obstacles. La serrure céda. La porte tourna en criant, mais enfin elle tourna. De l'autre côté, c'était la rue, c'est-à-dire la liberté. La mère Moloch reprit le poignet d'Hébé et lui dit en l'entraînant, « Je vous ai prévenu que vous auriez besoin de toutes vos forces. Armez-vous donc de courage, car ici, nous ne sommes point en sûreté, et il nous faudra faire beaucoup de chemin cette nuit. » « N'ayez pas peur, » répliqua Hébé. « J'aurai du courage et de la force, je vous le promets. » La mère Moloch se mit donc à marcher silencieusement, évitant les rues fréquentées et s'engageant dans un labyrinthe de petites ruelles mal famées qui formaient autour du sombre édifice de la prison un inextricable lacis. Peu à peu, les maisons devinrent plus rares. Elles finirent par disparaître tout à fait. On était en rase campagne. La mère Moloch ne ralentit point sa marche, ou plutôt sa course. Seulement, elle ne suivit point la grande route. Elle se jeta avec sa compagne dans des chemins de traverse, étroits et sinueux, et qui eussent semblé difficiles, même en plein jour. Elle ne manifestait aucune hésitation. Elle allait droit devant elle, d'un pas toujours également ferme et assuré. Il n'en était point de même pour Hébé. La malheureuse enfant trébuchait presque à chaque instant. 100 fois elle serait tombée, si le bras de la mère Moloch ne l'avait soutenue, avec une incompréhensible vigueur. Enfin, après 2 heures de marche, Hébé sentit que les forces lui manquaient complètement. Ses jambes engourdies et douloureuses refusaient non seulement d'avancer encore, mais même de la porter davantage. Elle tomba sur ses genoux en murmurant « Je ne peux plus, je ne peux plus. » La mère Moloch s'arrêta. « Ainsi, demanda la vieille femme, vous êtes épuisée ? À ce point que je me sens mourir. Vous vous croyez incapable d'un dernier effort ? Hélas, oui, mais je vous en supplie, madame, ne vous inquiétez point de ce que je deviendrai. Fuyez seule, abandonnez-moi. Je n'en serai pas moins reconnaissante jusqu'au dernier moment de ma vie de ce que vous avez fait pour moi. Vous abandonnez ? Non pas. Il le faut. J'achèverai mon œuvre. Je vous le répète, je suis incapable de marcher plus longtemps. Vous vous figurez cela, mais peut-être est-il possible de vous prouver le contraire. » Hébé ne répondit que par un gémissement. Elle perdait à demi connaissance. La mère Moloch la porta, ou plutôt la traîna, jusqu'à un talus gazonné sur lequel elle l'assit. « Oh, si je pouvais boire !» murmura Hébé. « Je connais un ruisseau sur notre chemin, à 1/2 lieue d'ici. »« 1/2 lieue ? Je mourrais sans l'avoir atteint ?»« Peut-être. Écoutez, je vais faire pour vous ce que je ferais à peine pour ma fille. » Hébé se souleva. La mère Moloch tira de sa poche un petit flacon d'un métal brillant, sur lequel la douteuse clarté de la lune, perdue entre des nuages blafards, mit une pâle étincelle. Elle déboucha ce flacon. « Écoutez, répéta-t-elle, chaque goutte de ceci que je vais vous donner représente plusieurs semaines de ma vie, des mois peut-être, peut-être une année. Qu'est-ce donc ? C'est tout à la fois la vie et la mort. » La mère Moloch approcha le flacon des lèvres d'Hébé et elle poursuivit. « Vous allez boire quelques gouttes, vous m'entendez bien. 2 ou 3, tout au plus. 2 ou 3 gouttes, c'est la force, c'est la vie. Une gorgée, ce serait la mort soudaine, foudroyante. Ainsi, jeune fille, prenez garde. » Et tout en parlant ainsi, elle appuya l'orifice du flacon sur les lèvres pâlies d'Hébé. Cette dernière fit avec crainte et tremblement ce que lui disait la vieille femme. À peine avait-elle bu 1 ou 2 gouttes de la liqueur étrange qu'on lui présentait, qu'il se passa en elle quelque chose d'inouï. Il lui sembla qu'un sang plus jeune et plus chaud circulait dans ses veines délicieusement gonflées. Un bien-être infini envahit tout son être. La fatigue et les souffrances s'évanouirent comme par enchantement. Elle se sentit mieux, reposée et plus vigoureuse qu'elle ne se souvenait ne l'avoir été jamais. Elle se leva en s'écriant « Vous aviez raison, madame, marchons, marchons tant qu'il le faudra. Me voici, grâce à ce merveilleux breuvage, plus forte et plus vaillante qu'au départ. » « Je vous le disais bien, » murmura la mère Moloch en reprenant le précieux flacon. « Je vous le disais bien, c'est la vie. » et toutes deux recommencèrent leur course rapide. Bientôt, elles arrivèrent auprès du ruisseau dont la mère Moloch avait parlé. « Si vous avez soif encore, dit la vieille femme, buvez !» Mais Hébé n'avait plus soif. Elle continuait à jouir de cet ineffable bien-être qui suppléait à tout et la plongeait dans une volupté douce et continue. Au moment où la mère Moloch s'arrêta, les étoiles pâlissaient au firmament. Du côté de l'Orient, une bande d'une lumière pâle commençait à se détacher sur les teintes sombres du ciel. Le jour approchait. Les deux femmes avaient marché toute la nuit. Elles se trouvaient en ce moment sur le sommet d'une montagne rocheuse, peu élevée et presque entièrement couverte de bois. Le plateau qui dominait cette montagne offrait à son centre un amoncellement de roches énormes, revêtues de lierre, de mousse et de toutes sortes de plantes parasites. La mère Moloch s'approcha de l'un de ces rochers. Elle écarta des touffes de fleurs grimpantes. Elle fit reculer quelques pierres et elle mit à découvert une ouverture étroite et basse, mais par laquelle, cependant, une personne de taille moyenne pouvait facilement passer. Elle pénétra la première dans cette ouverture. « Venez !» dit-elle ensuite à Hébé. La jeune fille, toujours surexcitée par la boisson magique, n'hésita pas à la suivre. Chapitre 12. La grotte. On ne voyait pas clair dans cette demeure souterraine, mais Hébé sentit que ses pieds foulaient un tapis de mousse mollement étendu sur le sol. Au bout d'une seconde, la mère Moloch alluma un flambeau par le même procédé qu'elle avait mis en œuvre dans la prison. Hébé put alors jeter un coup d'œil autour d'elle. Elle se trouvait dans une grotte haute et large, aux parois brillantes de stalactites. Rien n'y décelait la moindre trace d'humidité. Au fond se voyait un lit formé de mousse et de feuilles sèches. Ce lit et quelques sièges rustiques composaient tout l'ameublement de la grotte. « Vous êtes chez moi, » dit la mère Moloch à Hébé, « et je vous réponds que personne ne viendra vous y chercher. »«
Chez vous ?» répéta Hébé.
« Oui. »«
Quoi, vous vivez ici ?»«
Souvent, oui, » poursuivit la vieille.
« Souvent, presque toujours.
C'est ici que je traîne une misérable existence quand je ne vagabonde pas à travers les campagnes. » Ou quand je ne suis pas en prison.
En prison, répéta Hébé. Pourquoi en prison?
Parce que je n'ai d'autre moyen pour gagner ma vie que de me servir de ces deux sciences terribles qu'on appelle la divination et la magie. Ainsi que je l'ai fait pour vous, je dévoile le passé, je prédis l'avenir. Mais mes lèvres ne savent point prononcer le mensonge. Quand on m'interroge, je réponds la vérité. Or, cette vérité trompe souvent bien des espérances, froisse bien des vanités, blesse bien des intérêts. On s'irrite et on me jette en prison.
Mais alors, pourquoi continuer ce triste métier?
Encore une fois, comment voulez-vous que je vive? Cependant, j'ai pris un parti.
Lequel?
Un parti auquel vous n'êtes point étrangère.
Moi?
Vous-même, et vous allez voir. Ce parti, c'est de quitter ce pays sur le champ et de vous emmener avec moi.
« Vous voulez vous charger de moi ?» demanda Hébé avec étonnement.
« Oui, si vous ne vous refusez point à m'accompagner. Et à vrai dire, dans la position où vous vous trouvez, je ne vois pas trop comment vous feriez pour refuser.
Mais où comptez-vous aller ?»«
Dans un pays et dans une ville où nous vivrons facilement. » »«
Et c'est ?»« La France, Paris. »
« Paris ?» répéta Hébé, puis elle demanda.
« Et à Paris, que ferons-nous ? »
« Ce que je fais ici, nous dirons la bonne aventure. Vous passerez pour ma fille. Je vous apprendrai à lire, comme en un livre ouvert, dans les lignes de la main. Vous êtes jeune et belle, vous gagnerez de l'or, beaucoup d'or, et nous serons heureuses. »
En prononçant ces dernières paroles, la mère Moloch s'anima, et le feu sombre de la convoitise étincela dans ses prunelles.
« Mais, reprit Hébé, essayant une dernière objection, vous me l'avez dit vous-même. Ici, vous mourrez presque de faim, malgré toute votre science.
Ici, c'est vrai, mais à Paris, il n'en sera pas de même. Paris est une ville où le merveilleux plaît par-dessus tout, et où les secrets que révèle mon art sont appréciés et magnifiquement payés. »
Hébé ne se sentait point parfaitement convaincue. Mais elle n'avait pas d'autre ressource que celle d'accepter la proposition de la vieille femme.
Elle l'accepta donc. « Je vous accompagnerai, » dit-elle.
« Bien, » répliqua la mère Moloch, « j'y comptais. »«
Quand partirons-nous ? » ?»«
Dans 8 jours. »«
Pas avant ? » ?»«
C'est impossible. »«
Pourquoi si tard ? » ?»«
Parce que la prudence l'exige. »
Songez donc qu'à l'heure qu'il est, on s'est aperçu de notre évasion.
La mienne est de peu d'importance.
Mais la vôtre?
La famille de celui que vous avez tué réclamera votre mort,
qu'elle croit être une juste vengeance.
Et cette famille est puissante. Tous les limiers de la police seront sur pied.
On va battre les campagnes. Et si nous nous aventurions maintenant de compagnie sur les routes, nous sommes facilement reconnaissables,
et nous serions reprises presque aussitôt.
La jeune fille comprit la justesse de ce raisonnement et n'insista pas.
« Comment vous appelez-vous ? » lui demanda la vieille femme.
« Ebé. »«
Eh bien, Ebé, reposez-vous, tandis que je vais aller à une ferme voisine, dont les habitants me connaissent et ne me trahiront point. Cherchez quelques provisions qui nous sont indispensables.
Mon absence du reste ne sera pas longue. »
Le jour commençait à paraître.
Une faible lueur, pénétrant par l'ouverture de la grotte, faisait pâlir la clarté vacillante du flambeau que la mère Moloch avait allumé. La vieille femme éteignit cette torche, faite d'une sorte de bois résineux, et sortit.
Ebé alla se jeter sur le lit de mousse et de feuilles sèches qui se trouvaient au fond de la grotte.
Au bout de quelques secondes, elle sentit une sorte d'engourdissement la gagner. Un sommeil profond et réparateur s'empara d'elle. Elle dormit pendant plusieurs heures. Quand elle rouvrit les yeux, un rayon de soleil pénétrait dans la grotte en traînée lumineuse. Il était à peu près midi. La mère Moloch, accroupie dans un coin, semblait épier le réveil de la jeune fille.
« Avez-vous faim ? » lui demanda-t-elle.
« Je crois que oui, » répondit Ebé.
« Eh bien, mangez. Voici du pain et quelques fruits. C'est tout ce qu'il m'a été possible d'avoir. »
Nous passerons rapidement sur les 8 jours pendant lesquels la mère Moloch et Ebé habitèrent la grotte. Ces 8 jours n'offrirent pas le moindre incident digne d'être mentionné dans ce récit. Ebé s'habituait à appeler la vieille femme « ma mère ». La mère Moloch, ainsi qu'elle l'avait annoncé, lui apprenait à lire l'avenir dans les lignes de la main. Nous savons déjà qu'Ebé avait le goût le plus vif pour les sciences occultes. Les leçons qu'elle recevait lui offraient un intérêt prodigieux. Somme toute, cette semaine passa vite. Un après-midi, la mère Moloch annonça qu'elle avait fixé le départ ce même jour, à la tombée de la nuit. En même temps, elle dénoua un paquet qu'elle avait apporté. Elle en tira d'abord un costume mauresque, enrichi de sequins en cuivre doré, puis un petit poignard et un tambour de basque. Elle fit revêtir le costume mauresque à Ebé. Elle lui lava ensuite le visage avec une eau dans laquelle certaines plantes cueillies sur la montagne infusaient depuis 2 jours. Cette eau donna au visage d'Ebé, au lieu de sa pâleur habituelle, une teinte brune et chaude, semblable à celle des bohémiennes nées sous le soleil brûlant des Espagnes. « Vous voici méconnaissable, » lui dit-elle ensuite. « Ceux-là même qui vous ont arrêté ne vous reconnaîtraient pas. » La mère Moloch fit aussi subir quelques modifications à son propre costume. Elle souleva une grosse pierre qui se trouvait à côté du lit. Sous cette pierre, elle prit une bourse contenant quelques pièces de monnaie et qu'elle mit dans sa poche. Elle noua dans un linge ce qui restait du pain et des fruits qui avaient formé pendant une semaine toute leur nourriture, et elle attacha ce paquet à l'extrémité d'un bâton noueux. Ses préparatifs achevés, la mère Moloch attendit que l'obscurité eût envahi le ciel, puis elle dit à Ebé « Partons !» et toutes deux sortirent de la grotte qui leur avait servi d'asile. La jeune fille avait son petit poignard au côté et tenait le tambour de basque à la main. Après un voyage lent et fatigant, les deux femmes atteignirent les frontières de France, sans avoir eu à affronter des dangers réels. On les laissa passer, et on leur indiqua la direction dans laquelle elles devaient marcher pour se rapprocher de Paris. Depuis longtemps, les misérables pièces d'argent, qui formaient toute la ressource des voyageuses, étaient épuisées. Ebé, ayant repris par occasion son ancien métier, chantait sur les places des villages, en s'accompagnant du tambour de basque. Les quelques sous qu'elle recevait permettait à elle et à sa compagne de ne pas mourir de faim.